Mes amis, c'est frappant de voir que dans le quatrième évangile, notre Seigneur, à plus d'égards, il nous montre quelle est son identité, il nous livre son identité. D'ailleurs, quand tu regardes le chapitre 6 de Jean, tu vas voir qu'il te parle du pain vivant, le pain descendu du ciel, c'est Jésus. Quand tu regardes, tu vas au 8e chapitre, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et au chapitre 10 maintenant, dont on vient de lire l'extrait « Je suis le vrai berger ». Même quand tu vas plus loin au chapitre 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors aujourd'hui, le Seigneur se présente à nous comme le vrai berger, Je me suis dit, nous autres là, peut-être la grande partie de nous, eh bien, nous avons grandi dans des milieux, urbains. Peut-être que l'image du berger nous échappe un peu. Et ceux qui ont l'expérience du monde rural connaissent davantage ce à quoi consiste la vocation du berger. Mais au temps de Jésus, cela était encore plus fort. Notre Seigneur avait l'expérience rurale, mais aussi l'expérience citadine. Alors, au temps de Jésus, les bergers, ce qu'ils faisaient, à la tombée de la nuit, ils amenaient leurs brebis dans un enclos commun. Donc, plusieurs brebis, plusieurs bergers amenaient leurs troupeaux en un seul même endroit pour la nuit. Le matin, quand il se levait, chaque berger allait dans l'enclos et il commençait à pousser un cri ou faire un appel particulier. Seuls ces brebis reconnaissaient cet appel-là. Et dans la mêlée, ces brebis se dégageaient et se mettaient à la suite du berger qui peut jouer la flûte, qui peut crier de n'importe quelle manière, mais il a déjà entraîné ses brebis, ils se mettent à sa suite et le suivent. Il les fait sortir de l'enclos et c'était comme ça. Alors, quand le Seigneur dit à l'auditoire, écoutez, je suis le vrai berger, mes brebis connaissent ma voix. Mais les gens comprennent ce qu'il veut dire. Les brebis connaissent la voix parce que le brebis dans l'enclos, il quitte quand le berger appelle. Mes amis, ce qu'il faudrait se dire aujourd'hui, c'est que notre Seigneur, qui est le vrai berger, pour le connaître, il faut savoir ce qu'il fait de nous, ses brebis, nous, ses disciples. Eh bien, notre Seigneur, il est celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos aspirations les plus profondes. Il connaît nos attentes. Il connaît ce que nous voulons faire aujourd'hui. Il sait nos projets. Il connaît nos préoccupations, nos hauts et nos bas. Il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses. Voilà notre berger, voilà le vrai berger qui nous appelle aujourd'hui à le suivre. Mais maintenant, ce berger-là, non seulement il connaît le nombre de nos cheveux, non seulement il nous connaît mieux que nous-mêmes, ce berger-là donne la vie à ses brebis. Mais c'est formidable l'image. Le berger, un être humain, il donne sa vie aux brebis. Être animal. Maintenant, quand on met cela au niveau humain, au niveau de Jésus, Jésus, fils de Dieu, de nature divine, il donne sa vie à nous autres, hommes et femmes, de nature humaine. Voilà la bonté du berger. Voilà jusqu'où va le berger. Il donne son être, il donne sa vie pour son troupeau, pour que son troupeau vive éternellement. Voilà pourquoi les brebis qui appartiennent au Seigneur sont appelées à vivre éternellement. Et personne ne peut arracher de la main du Seigneur ces brebis-là. Vous rappelez Paul qui dit « Ni le présent, ni le futur, ni les forces négatives, ni le mal, ni rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. » C'est cela. Quand le Seigneur aime, il aime pour toujours. Et voilà que maintenant, toute la question, c'est de savoir comment nous comprenons ces textes-là. Vous connaissez, vous vous rappelez du psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. » On dit que c'est un des textes de la Bible le mieux connu aujourd'hui dans notre église, parmi les chrétiens, chrétiennes, disons, du monde. Un ami à moi, que je connaissais bien, et qui est mort subitement, lui aimait beaucoup ce texte-là. Et même quand on blaguait, il disait « À mes funérailles, moi j'aimerais qu'on puisse lire ce texte-là, « Le Seigneur est mon berger. » Et lui disait que quand il entendait proclamer ce texte-là, qu'on le chantait, alors à ce moment-là, il sentait tout son cœur vibrer. Il avait la chair de poule, et puis tout vibrait en lui. Il sentait comment ça le rejoignait, ce texte-là. « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. » Alors le texte dit, « quand je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton, ta houlette me guide, me conduit, me rassure. Et le texte se termine, je passerai le reste de ma vie dans les parvis, dans la maison du Seigneur, parce que le berger m'a gardé jusqu'au bout. Voilà en fait ce psaume qui résume qui est Jésus pour nous. Mais en fait, quand on regarde notre Seigneur, le bon berger, maintenant il faut voir quelle réponse on lui donne. Lui, il vient là, il donne sa vie, il nous aime, il est toujours là à notre disposition. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons, nous? Alors il dit, mes brebis, écoute ma voix. C'est quoi ça, écouter? Eh bien, écouter, c'est se mettre à la disposition du Seigneur. Comment écouter? L'acte d'écouter ouvre tout un plan, tout un programme de vie spirituelle. Nous écoutons la parole de Dieu quand nous venons à l'église, au moment de liturgie, quand on proclame la parole de Dieu, c'est Jésus qui parle, c'est le Christ qui parle. Alors, nous nous mettons à l'écoute du Christ. Quand nous prions intimement dans le secret, cœur à cœur avec le Seigneur, quand nous lui exprimons le tréfonds de nous-mêmes, à ce moment-là, il ne faudrait pas seulement parler, mais se mettre à l'écoute aussi de la voix du vrai berger. Ça, c'est laborieux. Que dans la prière, non seulement toi tu parles, mais que tu laisses le berger te parler aussi pour que tu sois à son écoute. Voilà la grâce qu'on demandera aussi la messe d'aujourd'hui, être en mesure d'écouter le Seigneur, le bon berger qui veut nous parler. Parlant de la voix, c'est bien reconnu aujourd'hui que nous apprenons à reconnaître la voix de notre mère dès le sein maternel, que nous apprenons à reconnaître la voix de notre père dès le sein maternel. Et c'est quand l'enfant vient au monde, quand la mère l'accueille, et quand la mère sourit à l'enfant, que l'enfant répond au sourire, premier sourire de l'enfant. C'est la mère qui entraîne. Et c'est la mère qui entraîne l'enfant, en fait, à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à l'amour. Et l'amour et la voix de la mère réveillent, éveillent l'enfant, en fait, à la vie naturelle. De la même manière, l'amour de Dieu nous réveille, nous éveille au monde surnaturel, au monde spirituel. Le sourire de Dieu nous apprend à sourire dans le monde spirituel. L'amour de Dieu nous éveille, ouvre notre cœur à l'amour, avec grand A. Comment vivre à la manière de Dieu? Mes amis, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est demander au Seigneur la grâce d'être vraiment ses brebis, que nous nous mettions à son écoute et que nous apprenions vraiment à le suivre et que nous nous laissions embrasser par sa parole et que sa parole résonne en nous. Mais il ne faudrait pas oublier que nous aussi, quelque part, nous sommes des pasteurs aussi. Nous sommes des bergers, des bergères, dans le sens que nous avons nos troupeaux à nous. Et nos troupeaux à nous, ce sont nos familles, notre travail, nos occupations quotidiennes, nos engagements sociaux, nos relations sociales. Alors, il ne faudrait pas oublier que ces troupeaux-là viennent aussi de Dieu. Comme Jésus qui considère ses brebis comme un don de Dieu et qui essaye de les soigner, les assurer de l'amour de Dieu, nous aussi, avec notre troupeau, la vie de notre cœur, nos amis, nos enfants, nos petits-enfants, tout cela, toutes ces personnes-là, eh bien, nous devons le considérer comme des dons de Dieu. Et en le considérant comme des dons de Dieu, nous sommes appelés à les guider, à les conduire à la manière de Jésus vers les eaux tranquilles, vers les eaux de la vie, vers l'amour infini. Voilà, nous avons cette grande tâche-là de les accueillir. Voyez-vous, la lecture, la deuxième notamment, nous parlait, ça c'est Jean qui a eu cette vision, qui voyait des gens de toutes les nations, de toutes les cultures, de toutes les races, devant l'agneau de Dieu. Voyez-vous, ça c'est l'Église, ça c'est l'humanité telle que Dieu l'a créée. Et notre cœur doit être ouvert aux dimensions de cette humanité-là qui est présentée dans l'Apocalypse aujourd'hui. Et même dans la première lecture, Paul et Barnabé vont annoncer au monde entier, à l'Église, ils annoncent l'Église. Et l'Église est ouverte et aux païens et aux juifs, donc à toute l'humanité. Alors, comme être humain, comme brebis de Jésus-Christ, eh bien, nous autres, notre cœur bat aux dimensions de l'univers, bat aux dimensions de l'amour de Dieu. C'est ainsi que quand on apprend des choses comme au Japon, où il y a eu deux tremblements de terre, le mercredi et le samedi, où il y a beaucoup de dégâts, quelques morts, on ne peut pas rester indifférent. Même si on est loin d'eux, on les porte, on souffre avec eux et on prie pour que des bergers, des bergères puissent s'occuper des personnes qui sont victimes, qui ont besoin de l'aide. Et même on disait aussi qu'à l'Équateur, hier, en Amérique latine, il y a eu aussi un tremblement de terre avec beaucoup de dégâts, c'était très fort, beaucoup de souffrances. Nous, qui sommes loin, nous ne pouvons pas être indifférents parce que notre cœur est le cœur de la brebis de Jésus. Et la brebis de Jésus, eh bien, écoute sa voix qui résonne. Et puis, on se met en marche et Jésus s'occupe de toutes les nations de la terre, de toutes les races de la terre, de toutes les cultures de la terre. C'est tellement que la plupart d'entre nous ont été ébranlés par les mauvaises expériences, les expériences difficiles, je dirais, qui se sont déroulées dans la communauté autochtone, la communauté des Cris, à Atawapiska. Et puis, d'ailleurs, je lisais ce matin, on fait d'abord le rapport de ce qui s'est passé là-bas. Depuis le mois de septembre jusqu'à aujourd'hui, il y a eu 86 tentatives de suicide. Ensuite, seulement pour le mois de mars, il y en a eu 28. Pour le mois d'avril, 11. Et ce matin, j'écoutais la radio, on disait que le chef vient de découvrir encore que le vendredi soir, il y a eu 4 tentatives de suicide. Voyez-vous ? Alors, nous sommes loin. De personnes qui sont loin. Nous sommes ici à Ottawa. Nous sommes ici à Beacon Hill. Mais notre cœur est un cœur qui n'a pas de frontières. C'est un cœur qui s'étend et qui voudrait du bien à chacun des êtres humains. Notre cœur à nous se préoccupe de toutes les peuples, de toutes les populations de la terre. Voilà pourquoi notre prière est toujours une prière universelle. Voilà pourquoi nos souffrances à nous, eh bien, reflètent aussi les souffrances des autres peuples, les souffrances d'ailleurs. Alors notre prière à nous, c'est que le Seigneur continue à envoyer des bergers, des bergères aux populations qui ont besoin d'aide, que ces jeunes-là qui pensent au suicide, ils ont besoin d'assistance, besoin d'aide pour le mener, ils ont besoin des bergers, des bergères pour le mener vers les eaux tranquilles, vers les eaux de la vie, vers les eaux de l'assurance. Et nous, par notre prière, on peut y participer. On peut porter cette croix-là aujourd'hui, de notre manière, voyez-vous. Il y a une chose qui était très émouvante, vous l'avez sans doute entendu, c'est que le pape est parti hier, samedi, il a fait aller-retour avec son avion. Alors il est parti dans l'île de Lobdos, en Grèce, là où il y a beaucoup d'immigrants ce moment-ci. En fait, il était invité par l'archevêque orthodoxe de Istanbul, de Constantinople, l'ancienne ville de Constantinople, Barthélemy, qui s'appelle, c'est lui, le patriarche de toute l'orthodoxie. Et le pape a été accueilli à sa descente d'avion par l'archevêque de Constantinople, l'archevêque orthodoxe Barthélemy, mais aussi il y avait un autre archevêque d'Athènes, un archevêque orthodoxe d'Athènes et puis de toute la Grèce. Il y avait aussi un représentant de l'Église catholique. Et ensemble, ils sont partis sur l'île où il y a des réfugiés. Ensemble, ils ont mangé avec les réfugiés. Je trouvais ça formidable. Et puis, chacun des trois leaders chrétiens a formulé ses souhaits aux réfugiés. Il a fait part des convictions chrétiennes, de notre manière d'aimer, de notre ouverture, du soutien, de l'accueil de toute personne, de n'importe quel coin de la terre. Alors, je trouve que ces trois leaders chrétiens-là, pour vous et pour moi, ce sont des pasteurs, des modèles à suivre. Leur manière de faire doit résonner dans notre cœur pour que nous aussi, nous suivions cette voie-là. Mais le plus beau, vous l'avez entendu, le plus émouvant, c'est que quand tout est fini, alors le pape prend trois familles syriennes. Il les fait monter dans l'avion avec lui et il va au Vatican, là où ils vont être accueillis. Trois familles syriennes, on dit qu'il y a 12 membres dans la famille, dont 6 enfants. Moi, je me dis, là, c'est encore un pasteur qui est en train de vous parler, moi, à vous et à moi. Qu'en fait, cette voie-là, cette manière de faire doit résonner en nous pour voir comment aujourd'hui nous sommes appelés à notre manière, dans notre milieu, comment encadrer nos troupeaux à nous, sans tenir compte des frontières extérieures, mais en accueillant toute personne. Alors dans la messe d'aujourd'hui, qui est aussi la messe des vocations, des prières pour les vocations, nous allons demander au Seigneur d'envoyer des prêtres, des religieux, religieuses, des diacres, à la manière du pasteur Jésus. pour que nous apprenions à sa manière à rassembler le peuple et à commencer ici sur la terre à bâtir un nouveau monde. Amen.